Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une émission anniversaire que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Cela fait quelques mois, cela fait près d'un an maintenant, que nous faisons de fréquents retours de 70 ans en arrière. Ça a commencé avec le 70e anniversaire du débarquement de Normandie en juin dernier. Et depuis, nous suivons cette espèce d'histoire parallèle, comme disait Marc Ferraud. Aujourd'hui, c'est encore une émission anniversaire, effectivement, puisque nous allons parler de la chute du Troisième Reich et plus particulièrement de la fin d'Adolf Hitler. Et puis à la fin de l'émission, je répondrai à une question de Jean-Michel qui souhaite justement savoir pourquoi on parle de Troisième Reich pour évoquer cette époque hitlérienne. Eh bien, vous voyez que nous resterons sur le même sujet de bout en bout de l'émission.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, je vous parlais de la libération des camps, bien entendu. Les premiers à l'été 1944 en Pologne, et puis il y a eu Auschwitz, bien sûr, en janvier 1945. Les derniers camps seront libérés au mois d'avril. À la même époque, les Allemands subissent de plein fouet l'assaut de deux énormes coalitions. D'une part, les troupes anglo-américaines qui arrivent depuis le débarquement de Normandie, bien sûr, qui arrivent par l'ouest. Et puis, arrivant du nord et de l'est, les troupes russes, l'armée rouge de Staline avec sa contre-offensive à l'est absolument extraordinaire et qui a secoué Hitler au point de le faire revenir à Berlin. C'est le 15 janvier 1945 qu'Hitler a quitté son nid d'aigle et est rentré définitivement pour s'enfouir dans ce Führerbunker, cette espèce d'abri souterrain en dessous de la chancellerie du Reich. Depuis juin 41, Hitler s'était habitué à vivre le plus possible à l'abri de toutes les attaques. Il avait vécu dans le massif d'Eifels, dans ce qu'on appelle le Felsennest, et également dans la Wolfschanze en Prusse orientale, à Rastenburg, également dans ce qu'on appelait le Werwolf en Ukraine. La dernière allocution publique d'Hitler, elle a lieu le 30 janvier 1945 et à ce moment-là, on peut dire que l'étau se resserre. Staline vient d'annoncer qu'il comptait envahir Berlin. Le bunker, vous l'avez vu probablement si vous avez vu le film avec Bruno Ganz, ce film qui s'appelait La Chute et qui se passe en grande partie dans cet espace confiné, ces 250 mètres carrés, une vingtaine de pièces, cet abri ultra sécurisé qui avait été construit sous une dalle de 4 mètres de béton à 2 mètres au-dessous des jardins de la chancellerie du Reich à Berlin. Le Führerbunker était un repère très solide. Il faut imaginer ces murs gris, suintants, tout ça est très humide. On se plaignait d'ailleurs d'une mauvaise odeur permanente à l'intérieur, malgré une ventilation très puissante et entre nous très bruyante. Hitler dispose à l'intérieur de 3 pièces d'environ 10-12 mètres chacune, avec un ameublement spartiate, une chambre, un petit salon, un bureau. Même les salles de réunion sont très petites et le moins qu'on puisse dire est que la vie qu'on mène, ou plutôt la survie dans ce bunker, est une chose terrible. Il n'y a pas de distraction. Certes, Hitler a réservé une pièce à ses chiens, notamment à son célèbre berger allemand Blondie et au chiot de Blondie, ainsi qu'au petit Scottish terrier d'Eva Braun. Mais enfin bon, vous avouerez que comme distraction, c'est quand même extrêmement limité. Les liens avec l'extérieur passent essentiellement par le téléphone. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1945, que tous les moyens de communication et de visualisation de l'extérieur qui sont les nôtres aujourd'hui, bien sûr, n'existent pas à l'époque. Alors, qui se trouve là avec Hitler à l'époque? Il y a son médecin personnel, Théodore Morel, bien entendu. Et d'ailleurs, on peut dire que l'état de santé de Hitler est vraiment très, très médiocre à cette époque. Le tournant, ça a été l'attentat du 20 juillet 1944, bien entendu. Ça, c'était un choc total pour Hitler. Il s'attendait, bien sûr, à ce qu'on en veuille à ses jours. Mais là, il est passé vraiment très près de la mort. Et c'est à partir de ce moment-là que vont se déclencher ces espèces de crises de paranoïa permanentes qui vont le mener vers une forme de folie. Je poserai tout à l'heure la question à mon invité de savoir si Hitler, dans les derniers temps du Reich, était véritablement fou. Ce qui est certain, c'est que Morel lui aura en tout prescrit plus de 90 médicaments différents. On lui injecte en permanence des vitamines, des hormones, d'où cette espèce de teint cireux que l'on voit, les cernes épouvantables, quand je dis les cernes, les poches qu'il a littéralement sous les yeux, des cheveux qui sont devenus tout blancs, et puis ces tremblements permanent. Alors, je vous ai parlé de son médecin. Bien entendu, celle qui est au plus près d'Hitler, c'est celle qu'il a rencontrée en 1929, alors qu'elle travaillait en tant que photographe pour le parti nazi. C'est Eva Braun, sa maîtresse, sa compagne. Elle avait 17 ans à l'époque, lui en avait 40. Cette Eva Braun, toute blonde, aux yeux bleus, toujours habillée en noir et blanc, qui a passé le plus clair de son temps à essayer de contenter Hitler et d'obéir à ses ordres tous plus ou moins fantasques. Elle va devenir, mais vraiment à la toute fin, elle va devenir Madame Hitler, hein, puisqu'ils vont se marier. Alors, que se passe-t-il ? Remontons, si vous voulez, à la surface, hein, faisons 6 mètres vers le haut et vers l'air libre. Que se passe-t-il dans Berlin à l'époque ? C'est l'ébullition. L'ébullition complète. Des centaines de Berlinois ont étendu des draps blancs à leurs fenêtres en signe de reddition. Ils veulent se rendre. On a peur de l'avancée soviétique. On en a même une peur bleue, bien entendu. Le 3 avril, Himmler a ordonné d'exécuter tous les habitants de sexe masculin de plus de 14 ans des habitations arborant un drapeau blanc. Vous voyez un petit peu l'ambiance, si je puis dire. La situation dans Berlin est littéralement intenable. La population, enfin une partie de la population commence à s'adonner au pillage. Le 7 avril, Goebbels va faire décapiter un homme et une femme qui avaient pris part au pillage d'une boulangerie. On essaie, par la terreur, après tout c'est la seule arme que connaissent les nazis et dans cette période de crise extrême, elle est la toute dernière, on essaie de régner par la terreur, par l'effroi, bien entendu. Hitler ne sort quasiment plus de son bunker. Toutes les réunions se tiennent désormais en sous-sol. Ce sont des réunions interminables. Le 9 avril, le docteur Morel parle d'un grand point de situation qui s'est terminé à 5h30 du matin. Il avait commencé aux premières heures de la soirée de la veille quand même. Voilà ce que le téléphoniste de service, Rochus Misch, raconte. Il nous dit « Les réunions de situation amenaient un peu de vie à notre monde souterrain. Quand elle se terminait, une atmosphère sourde et morte reprenait ses droits. Nous pensions à ce qui se passait là-haut et nous étions enterrés dans un cercueil de béton. Une peur insidieuse et muette planait sur tout le monde. C'était simplement fantomatique. Tous ceux qui étaient encore là murmuraient, même les secrétaires murmuraient. Je ne voulais pas me laisser happer par cette ambiance et je hurlais exprès au téléphone, juste pour me donner le sentiment que revenait un peu de vie. » Le 12 avril au soir, Goebbels se rue dans le bureau du Führer et lui annonce la grande nouvelle, Roosevelt est mort.
Extrait de la bande originale du film Valkyrie de Bryan Singer avec Tom Cruise, sorti en 2008, une musique signée John Ottman sur Europe 1. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur les derniers jours d'Hitler.
La nouvelle de la mort du président des États-Unis, de la mort de Roosevelt le 12 avril 1945, cette nouvelle va, pendant quelques instants, ça ne durera pas très longtemps, mais va d'un seul coup faire renaître l'espoir et l'enthousiasme au sein du bunker. C'est une véritable hystérie collective. On se dit que ça pourrait peut-être renverser la situation et évidemment, on ne peut s'empêcher de songer d'établir le parallèle avec ce qui s'était passé en 1762 au moment de la mort de la tsarine Élisabeth. À ce moment-là, Frédéric II avait profité de la circonstance de la mort de l'impératrice de Russie pour reprendre le dessus. Ça avait été le basculement, littéralement, de la guerre de 7 ans. Il s'agit, c'est l'obsession d'Hitler, de limiter les effets de la débâcle. On n'a pas totalement perdu espoir et Hitler, alors est-ce qu'il le croit lui-même ou est-ce qu'il essaie de le faire croire à son entourage? C'est une des questions que je poserai à Jean Lopez tout à l'heure. Mais en tout cas, Hitler veut faire croire qu'une victoire serait encore possible. L'ordre formel lancé par la SS, la Wehrmacht, le parti est le suivant. Les villes sont des nœuds de communication importants. Elles doivent de ce fait être défendues et tenues jusqu'à la dernière extrémité, sans égard pour les promesses faites par des parlementaires ou des émissions de radio de l'ennemi. Dans chaque ville, le commandant de place est responsable de l'accomplissement de cet ordre. Toute personne qui s'opposerait à l'accomplissement de sa mission, y compris les fonctionnaires civils, toute personne sera condamnée à mort. Et l'ordre va provoquer la destruction de dizaines de villes, parce que pendant ce temps-là, bien entendu, les armées alliées avancent et il y a bombardement sur bombardement. Alors, le 20 avril, à 3h du matin, une alarme a retenti dans les rues de Berlin. Les chars soviétiques ont atteint la banlieue. C'est-à-dire que là, quand je parlais des taux qui se resserraient, vous imaginez quand même que les combattants sont extrêmement proches du bunker de Hitler. « Je n'ai pas dormi », dit Hitler lui-même. « Réveillez-moi une heure plus tard que prévu, à 14h. » Dans l'après-midi, il va néanmoins quitter sa tanière. Et oui, en effet, il va remonter jusqu'au jardin et jusqu'à la chancellerie pour recevoir les vœux d'anniversaire d'une délégation de SS, d'officiers de l'armée de Courlande, de jeunes hitlériens de 12 à 16 ans. Tous ces gens-là viennent célébrer son 56e anniversaire. Est-ce que Hitler va rester enfoui, va rester tapis, terré dans Berlin, ou est-ce qu'il va se sauver? La question peut se poser, bien entendu. Il faudrait se décider très vite, parce que bientôt il n'y aura plus d'issue possible pour sortir de Berlin. Mais en l'occurrence, Hitler refuse complètement cette option. Comment pourrais-je inciter les troupes au combat décisif pour Berlin si au même moment j'allais me mettre en sécurité, dit-il. Et la tension et la pression se font chaque jour plus fort. Les alliés fêtent à leur manière, si je puis dire, l'anniversaire de Hitler en redoublant les raids aériens qui se mettent à pilonner la ville. Le lendemain, Hitler ordonne au général Steiner, général SS Steiner, de tout mettre en œuvre pour repousser l'ennemi. Il faut mobiliser tous les hommes, dit-il. Ceux qui s'y refuseront seront fusillés. Vous voyez que là, on n'est plus du tout dans un sursaut spontané. On n'est plus du tout dans la levée d'un peuple contre l'envahisseur. On est dans la terreur et dans l'ordre de se battre, purement et simplement. Quand Hitler apprend que Steiner a décidé de ne pas mettre son plan en œuvre, alors là, il éclate, il explose d'une rage, d'une fureur, si j'ose l'expression, absolument terrible. La réunion tourne littéralement au pugilat et au cours de cette réunion de situation, Hitler va accuser ses officiers de lâcheté, de duplicité, d'incompétence. Alors c'est extraordinaire parce qu'il n'y a déjà plus grand monde autour de lui et ceux qui s'approchent encore de lui sont maintenant voués aux gémonies. Il les insulte littéralement. Il est complètement épuisé, Hitler, et à ce moment-là, il va avoir ces mots, ça c'est important. Il dit « La guerre est perdue, mes généraux m'ont menti, m'ont trahi, et que ce soit clair, messieurs, je ne crois plus à un dégagement de Berlin. » Et il leur annonce son intention de se suicider. Il ajoute que Göring reprenne tout, quand il s'agira de négocier, il le fera mieux que moi. Alors, il propose quand même à ceux qui l'ont suivi jusque-là de quitter la ville s'ils le veulent. C'est complètement stupéfiant, on n'aurait jamais attendu ça encore la veille de la bouche de Hitler. Seul Goebbels annonce sa volonté de suivre le Führer jusqu'au bout. Et vous savez ce qui va se passer, hein, cette espèce de suicide invraisemblable de la famille Goebbels. Comment faut-il interpréter cette espèce de fidélité excessive de Goebbels à la personne de Hitler ? Encore une question qu'il faudra poser tout à l'heure. Pendant ce temps, on se bat dans chaque rue de Berlin qui compte quand même encore 2 300 000 habitants. Je parle là de la population civile. Hitler donne maintenant des ordres complètement surréalistes à des divisions fantômes. Il condamne à mort les traîtres qui refusent sa stratégie de la terre brûlée. Et pour éviter le pire, évidemment, un certain nombre continue de lui obéir, mais dans une sorte de déréliction générale. Il y a quelque chose d'épouvantablement pathétique à voir cet homme devenu semi-fou, hurler des ordres à des divisions qui n'existent plus, sur une situation qui ne correspond plus à rien. Tout ça est épouvantable. Göring a pris au mot la décision d'Hitler. Vous savez, quand Hitler a dit que Göring reprenne tout, quand il s'agira de négocier, il le fera mieux que moi. Eh bien, le maréchal du Reich a décidé d'aller se réfugier au sud du pays. Il envoie un télégramme à Hitler pour confirmation, précisant, je cite, « Sans réponse à 22h ce soir, j'entrerai d'office en fonction, considérant que vous avez perdu votre liberté d'action. » Ça, c'est pas très étonnant quand on connaît la personnalité de Göring, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était quand même inattendu du point de vue de Hitler.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission. Vous pouvez nous envoyer vos messages et vos questions via la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand. Les derniers jours d'Hitler sont au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La chute du Reich est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous relatez les derniers jours d'Adolf Hitler.
Hitler est fou de rage. Il a les larmes aux yeux, les mains tremblantes. Alors ça, cela dit, il tremblait depuis déjà plusieurs semaines. Il est tout simplement outré par la nouvelle que vient de lui apporter le chef de la chancellerie, qui par ailleurs est un ennemi juré de Göring, c'est Bormann, qui a transmis à Hitler le fameux petit message de Göring disant « Sans réponse de vous à 22h ce soir, j'entrerai d'office en fonction, considérant que vous avez perdu votre liberté d'action ». Ça, c'est la trahison suprême, c'est celle à laquelle il ne s'attendait sûrement pas lui-même. Il est terriblement furieux, il traite Göring de pervers, de raté, de drogué, il en profite pour le destituer illico de ses fonctions, ordonne qu'on l'arrête pour haute trahison, et c'est à ce moment-là que Himmler va lui infliger le coup de grâce, puisque ce 28 avril, dans l'après-midi, Hitler apprend que son fidèle chef de la SS aurait entamé de son côté des négociations avec les alliés occidentaux. Ces négociations sont tout simplement sordides, le but étant de monnayer littéralement la vie d'un certain nombre de déportés des camps. Ce n'est pas ça, bien sûr, du tout qui choque Hitler. Ce qui le choque, c'est que Himmler ait osé de son propre chef entrer en négociation avec les alliés, prendre langue avec l'ennemi et négocier de son côté. Le voilà totalement seul, Hitler, le voilà ivre de rage. Il sait maintenant, et il sait très bien que la fin est proche. Et face à ces trahisons, il a l'intention de récompenser ses derniers fidèles. Alors que faire ? La plus fidèle de toutes, évidemment, c'est Eva Braun. Et Hitler, c'est vraiment ça, ça signifie qu'il est très probablement convaincu qu'il va mourir. Il décide d'épouser Eva Braun. Le mariage aura lieu dans la nuit du 28 au 29 avril. Alors, on se réunit comme on peut, hein, tout ça est vraiment assez sordide. On se réunit dans la salle des cartes. C'est Walter Wagner, un collaborateur de Goebbels, qui va sceller l'union officielle de Hitler, chancelier du Reich, avec cette Eva Braun qui devient donc Madame Hitler. La famille Goebbels, Bormann, les secrétaires, les cuisinières sont invitées dans les appartements, si l'on peut dire, des jeunes mariés à boire un peu de champagne. Et dans la soirée, Hitler se retire finalement pour rédiger son testament. Il sortira avec sa secrétaire et là, s'il en est à rédiger ce testament, c'est que bien entendu, sa fin est proche. On est tout proche, tout simplement, du suicide d'Hitler. Le lundi 30 avril, le Führer a pris ses dispositions. Ce sera le jour de sa mort et lui qui, pendant les semaines qui viennent de se dérouler, lui qui s'est montré d'une furie, d'une colère, d'une instabilité absolument incroyable, eh bien là, il va procéder avec calme. Il va commencer par faire abattre sa chienne, Blondie. Ça, quand on sait l'amour incroyable qu'il vouait à cet animal, ça signifie qu'il a décidé qu'il n'y avait plus de retour possible. Il fait donc abattre le berger allemand, puis il réunit son état-major pour faire ses adieux. Voilà ce que nous dit Jean Lopez dans ce très bel album sur les 100 derniers jours d'Hitler. Il nous dit à minuit, Hitler commence à faire ses adieux à son entourage, une trentaine de personnes au total. Il remercie d'abord son majordome, Heinz Linge, à son service depuis 10 ans. Il lui confie une dernière mission, préparer dans ma chambre des couvertures de laine et assez d'essence pour 2 crémations. Je vais me tuer avec Eva Braun, vous envelopperez nos cadavres dans les couvertures et vous les montrez dans les jardins pour les brûler. Il ajoute que tous ses biens personnels présents dans le bunker doivent disparaître, sauf le tableau de Frédéric Legrand dont il fait don à Hans Bauer, qui est son chef pilote. Après quoi, Hitler va déjeuner tranquillement avant de se retirer dans ses appartements avec son épouse. La porte est close, bien entendu. Et c'est derrière cette porte close qu'on va entendre le fameux coup de feu. À 15h15, Hitler rappelle encore à son majordome ce qu'il a à faire de son cadavre. Il lui conseille de tenter une percée vers l'ouest, nous dit Jean Lopez, avec tous les autres. Linge s'enhardit à lui demander « Mais pour qui maintenant devons-nous percer ?»« Pour celui qui viendra », répond Hitler. Il serre enfin la main de son majordome et pour la dernière fois, il fait le salut nazi, Linge ferme la porte de l'appartement privé et Otto Günsche, l'aide de camp, qui est un SS, l'aide de camp du Führer, barre l'accès. Et aux alentours de 15h30, Eva Braun se donne la mort par le poison. Hitler se tire quant à lui une balle dans la tempe droite. Selon les témoignages de Linge et d'Axmann, les deux corps restent assis, les yeux mi-clos sur le sofa à fleurs, dans le petit salon qui est là juste à côté de la chambre de Hitler. À terre, les 2 armes personnelles d'Hitler, un Walther PPK 7,65 mm, celle qui l'a tué, et un Walther 6,35. Linge et Bormann pénètrent les premiers dans la pièce, suivis de Günsche, et avec une 12aine de SS, ils évacuent les 2 cadavres, celui d'Hitler donc enroulé dans la couverture prévue. Au passage des dépouilles, Axmann, Goebbels, Krebs, Burgdorf, lève le bras. Bonjour Jean Lopez, voilà un sujet qui appelle beaucoup de questions. Ça tombe bien, j'en ai quelques-unes en réserve pour vous.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les derniers jours et le suicide d'Adolf Hitler sont au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous recevez le directeur de la rédaction de Science et Vie, Guerre et Histoire, Jean Lopez, auteur des 100 derniers jours d'Hitler, chronique de l'Apocalypse, paru aux éditions Perrin.
Alors Jean Lopez, avant de venir dans le détail de cette affaire, de cette espèce d'étau qui se resserre autour du bunker d'Hitler, autour de Berlin, il faut peut-être que nous évoquions ce qui a été longtemps une rumeur, mais une rumeur importante, persistante. Moi je me rappelle quand j'étais petit, dans les cours de récréation, la grande question c'était « Est-ce qu'Hitler est encore vivant ?» Alors évidemment aujourd'hui ce ne serait plus possible, mais on a cru, ou certains ont voulu faire croire à sa survie, il faut le dire.
Oui c'est exact, c'est une rumeur urbaine,
oui, c'est ça,
qui a persisté longtemps. Aujourd'hui, évidemment, elle n'est plus de mise, puisqu'Hitler, qui est né en 1889, aurait
125 ans, oui, ça fait beaucoup.
Donc, en fait, qu'est-ce qu'il en est ? Donc, il se suicide le 30 avril à 15h30. Les Soviétiques arrivent au bunker le 2 mai, et immédiatement. Alors, Staline sait, quelques heures après la mort, par une lettre de Goebbels, Staline est le premier homme informé de la mort d'Hitler, mais immédiatement, il demande au chef des services spéciaux du NKVD, le général Serov, mais où est le corps ? Et commence la chasse au corps. Serov, avec ses hommes, passe au peigne fin les environs du bunker. On cherche, différents cadavres sont trouvés, il n'y en a pas un qui fait l'affaire. Et puis finalement, le 4 mai, dans un trou d'obus, on dégage des ossements carbonisés.
Alors, oui, ces ossements...
Ces ossements carbonisés, à qui sont-ils ? On trouve les ossements d'un chien, d'une chienne, d'un chiot, puis de 2 êtres humains qui sont analysés. et qui sont définitivement identifiés le 19 mai d'après les bridges dentaires, avec 0,0% de doute, comme étant ceux d'Eva Braun, la femme d'Hitler, et d'Adolf Hitler.
La toute nouvelle femme d'Hitler, la compagne et la toute nouvelle femme d'Hitler.
Femme pendant 24 heures officiellement, avant
alors,
de mourir.
D'où est venue cette espèce de doute sur sa mort?
Alors, en fait, la source de cette rumeur, elle est à chercher du côté du Kremlin et du côté de Staline lui-même, puisque donc Staline, dès le 20 mai, sait avec une certitude proche de 100% qu'Hitler est bien mort, qu'on a retrouvé ses ossements, mais il ne le dit à personne. Et notamment, il ne le dit pas au maréchal Joukov, qui commande la zone d'occupation de Berlin, et qui, dans une célèbre conférence de presse, va dire « On ne sait pas où est passé Hitler, il n'est pas exclu qu'il soit sorti de Berlin en avion ». Et ces paroles que Joukov dit en toute bonne foi, car Staline
car lui
ne lui
n'est pas
rien,
au courant, oui,
il
bien
n'est pas
sûr.
Au courant, vont évidemment faire le tour du monde et lancer la rumeur. Staline s'est bien gardé de jamais la détromper.
Alors il y a une question que j'ai eu l'occasion d'évoquer ici souvent avec François Kersaudy, avec François Delplat, la question de la folie d'Hitler. Jusqu'où cet homme avait-il, dans les derniers temps, dans ces fameux 100 derniers jours, cette chronique de l'apocalypse que vous nous dépeignez chez Perrin, jusqu'où cet homme avait-il sa raison? On le voit très bien dans le film La Chute, hein, avec ce Bruno Ganz qui incarne un Hitler plus vrai que nature, on le voit en proie à des crises de colère, de paranoïa, qui frise un peu la folie tout de même.
Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'Hitler est fou, loin de là. C'est un prophète certainement illuminé par moments, mais à mon avis, il a tous ses moyens intellectuels. En revanche, ses moyens intellectuels sont sévèrement limités par le stress énorme qui pèse sur lui. Si on regarde du côté des colères, regardez aussi du côté des colères monumentales de Churchill ou de celles
oui,
de Staline.
Cela dit, c'est vrai.
Tous ces dirigeants sont littéralement écrasés par 6 ans d'une guerre épouvantable qui les a pressés comme des citrons et tous sont absolument épuisés. Hitler ne fait pas exception.
Ils sont au bout du rouleau, si l'on peut dire,
oui.
Et ils ont le sentiment, et ça c'est vrai aussi bien pour Churchill que pour Hitler en effet, pour ce qui est de Staline c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas ils ont le sentiment qu'on ne leur obéit pas, que les ordres qu'ils donnent ne sont pas relayés suffisamment vite et suffisamment bien. C'est tout à fait le cas d'Hitler, hein, qui passe son temps à se demander si les ordres qu'il a donnés ont bien été exécutés. D'ailleurs, ils le seront de moins en moins à mesure qu'avance le conflit.
Ils le sont de moins en moins comme ils le voudraient. Mais disons que depuis l'attentat du 20 juillet 1944, effectivement, sa suspicion à l'égard d'un certain nombre de militaires et de milieux s'est considérablement aggravée.
Alors, cette suspicion, elle naît d'un vieux conflit intime qui remonte même aux origines du nazisme entre les nazis eux-mêmes et notamment leurs bras armés, les SS, et puis la vieille armée allemande, la Reichswehr, qui, elle, évidemment, n'est pas toujours tout à fait obéissante.
Alors, cette vieille armée allemande peuplée d'aristocrates traditionalistes, on va dire, qui représente les vieilles vertus de l'Allemagne impériale d'avant Hitler, elle n'existe plus en 1945. Elle a été laminée par la guerre. Hitler a remplacé tous les officiers supérieurs qui représentaient cette vieille Allemagne. Les officiers moyens et subalternes sont tous des adhérents ou des quasi-adhérents à l'idéologie nazie. En réalité...
Mais enfin, il y a une distinction quand même entre Wehrmacht et SS.
Il y a une distinction de facto par l'uniforme, par le chef auquel elles obéissent, mais dans les faits et dans les mentalités, il y a de moins en moins de différences. Mm-hmm. D'ailleurs, si vous me permettez...
C'est important de le souligner. Hein,
c'est important de le souligner. Il y a une véritable nazification de la Wehrmacht.
Mm-hmm.
Et à partir de 1943, les officiers doivent des comptes à des commissaires politiques nazis qui sont responsables devant le parti, qui sont intégrés à la Wehrmacht. Ce sont les officiers nationaux socialistes. Donc là, vous avez une sorte de Wehrmacht qui va ressembler de plus en plus à l'armée rouge, sous un contrôle politique étroit. Et tous les hommes qui sont peu ou prou opposés au nazisme, ils ne sont plus là en 1945. Il n'y a que des gens qui croient à la lutte finale jusqu'au bout, quelle que soit leur chance de succès. Et ils savent presque tous que les carottes sont cuites depuis belle lurette.
Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'honneurs prussiens et militaires chez un certain nombre de chefs de cette armée s'oppose évidemment à toute forme de capitulation. Donc ce sont des jusqu'au-boutistes finalement.
Ce sont des jusqu'au-boutistes parce que c'est une génération, ces officiers, qui a vécu le traumatisme de 1918. Ils sont tous persuadés que l'Allemagne n'avait pas perdu la guerre en 18, qu'elle a été trahie par l'arrière et qu'elle a été défaite parce qu'elle a déposé les armes à minuit moins 5. Et le discours de tous ces gens-là, c'est maintenant, dans cette guerre-là, on déposera les armes à minuit 5.
Alors, on a toujours à l'esprit les grandes inflexions de ce conflit, hein, de cette seconde guerre mondiale, avec notamment le débarquement anglo-américain de novembre 1942, avec l'entrée des Allemands en Union soviétique, qui est le début de la fin pour eux, avec bien entendu le grand débarquement du 6 juin 44. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour nous, Français, avec la téléologie, avec le recul de l'histoire, on a l'impression que la guerre allait, sinon gagnée, disons pliée, comme on dit aujourd'hui, dès juin 44. Ça n'est pas du tout le point de vue de Hitler, quand même, il faut le signaler.
Alors, je pense qu'Hitler sait qu'il ne peut plus gagner la guerre à peu près depuis l'automne 1942. C'est ce que déclara Jodl à la veille de son exécution à Nuremberg. On en a d'autres témoignages. Hitler, qui est bien meilleur stratège qu'on ne l'a affirmé par la suite, a compris que c'était fini, il ne pouvait pas gagner.
Mais il comptait sur les fameuses armes secrètes.
Il a entretenu, on va le dire autrement si vous permettez, il a entretenu l'espoir dans le peuple allemand et parmi ses combattants que les armes secrètes pourraient renverser le cours de la guerre. Il a utilisé d'autres choses. Il a également entretenu l'espoir que la grande alliance entre les Américains et les Soviétiques, c'est-à-dire entre le capitalisme et le communisme, allait se dissoudre. C'est aussi un moyen pour lui de maintenir l'espoir dans son corps. Mais y croit-il vraiment ?
C'est ça la vraie question. Vous me posez la question, mais c'est à vous que je pose cette question.
Eh bien, je vous répondrai que je pense qu'il joue une comédie pour maintenir son peuple au combat jusqu'au dernier moment. Et qu'en réalité, les conversations nocturnes qu'il a avec Goebbels en 1945 me laissent penser qu'il écarte à peu près cette hypothèse d'une véritable explosion du camp allié. Il n'y croit pas.
Alors, on connaît évidemment les fidèles de Hitler, fidèles jusqu'au bout avec cette scène extravagante de la famille Goebbels, bien entendu, fidèles à travers, alors fidèles frelatés, si je puis dire, à travers le cas du maréchal Göring. Rudolf Hess était son dauphin désigné et finalement celui qui doit lui succéder, c'est l'amiral Dönitz. Qui est-il, ce Dönitz ?
Alors, Dönitz, c'est à la fois un technocrate et un idéologue. Dönitz, c'est l'homme qui a créé l'arme sous-marine allemande, les fameux U-boats qui ont donné tant de soucis aux alliés. Et il est devenu le grand amiral de la flotte allemande au début de 1943. Dönitz est un nazi bon teint. Il a adhéré au parti nazi en 1944.
Là encore, il faut bien le souligner, parce qu'on a eu tendance parfois à gommer un peu cet aspect.
C'est exact. Dont il porte l'insigne d'or à sa boutonnière. Et c'est un homme qui a commis des crimes de guerre extrêmement importants. Il a violé notamment une règle essentielle qui veut qu'on ne tire pas sur les naufragés. Il a donné une dizaine d'ordres visant à anéantir les équipages des bateaux alliés, même après que ces bateaux eussent été coulés. Ce qui lui vaudra 10 ans de réclusion, une peine relativement douce au procès de Nuremberg.
Oui, et puis on se rappelait la fameuse affaire du Laconia, etc., où il avait fait preuve d'une certaine noblesse de marin, si l'on peut dire. L'amiral Dönitz va succéder de facto à Hitler. De jure même, hein,
absolument, de jure, puisque en fait, Hitler lui donne par son testament politique du 29 et 30 avril 1945 la fonction de président du Reich et de commandant-chef des forces armées. Donc, le dernier Führer du Troisième Reich, c'est en quelque sorte Dönitz, même s'il ne porte pas le titre de Führer.
C'est un véritable compte à rebours que vous nous proposez dans cet ouvrage, puisque l'on voit jour par jour, heure après heure, une sorte de fatum, une sorte de destin s'emparer de ce Reich finissant.
Oui, c'est une période terrifiante dans la mesure où elle est la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale, on l'oublie trop souvent. En 106 jours, on compte 3 millions de morts.
C'est incroyable.
C'est un bain de sang effroyable. Et alors, la nouveauté, c'est que c'est pour la première fois, les victimes allemandes sont bien plus nombreuses que les victimes dans le camp allié, notamment dans le camp soviétique. Puisque sur ces 3 millions de victimes, il y a 2 millions d'Allemands, dont 1 400 000 combattants qui vont subir un bain de sang effroyable.
Alors justement, nous allons parler non seulement de ces combattants, mais de ces populations civiles, des bombardements, de la polémique qui en est né, bien entendu, de l'attitude de la population berlinoise aussi à cette époque. Bref, nous venons sur tous ces aspects un peu gênants pour les alliés que nous étions dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
sur Europe 1 un extrait de la bande originale du film La Chute d'Oliver Hirschbiegel, sorti en 2004 avec Bruno Gans dans le rôle d'Adolf Hitler. Une musique composée par Stéphane Zacharias. Au cœur de Berlin en avril 1945, Franck Ferrand, vous nous parlez des derniers jours d'Hitler dans son bunker. Votre invité, Jean Lopez, auteur du livre Les 100 derniers jours d'Hitler, chronique de l'Apocalypse, paru aux éditions Perrin.
Il y a une question que je me pose, Jean Lopez, lorsque je vois notamment les photos de Hitler à Rasenburg ou à Berchtesgaden dans son nid d'aigle, etc. Que faisait-il dans le plein cœur de Berlin au moment où Berlin est la cible des deux plus grosses coalitions armées jamais réunies dans l'histoire ?
Il revient à Berlin le 15 janvier 1945. Auparavant, il est dans son quartier général secret près de la frontière, enfin, à l'ouest de l'Allemagne, oui, d'où il a dirigé la contre-offensive des Ardennes. Il a assisté à son échec et il apprend que les Soviétiques ont déclenché une offensive énorme, la plus grosse de toute la guerre, qui les amène en quelques semaines de Varsovie à 70 km de Berlin. Donc il revient dardard dans sa capitale le 15 janvier. Pourquoi y revient-il ? Bien sûr, pour diriger la résistance contre l'armée rouge, mais aussi parce qu'il sait que c'est depuis sa capitale qu'il a le plus de chances d'éviter que le moral de son peuple ne craque comme en 1918, ce qui est sa hantise. C'est l'homme qui a été marqué par Première Guerre mondiale.
On peut presque dire que sa carrière politique est née de ce traumatisme, en fait.
Absolument. Il a trouvé sa voie suite à ce traumatisme. Ses expériences les plus importantes, la formation intellectuelle et psychologique d'Hitler est de la Première Guerre mondiale. Il réagit donc en homme de la Première Guerre mondiale. Il s'attend à ce que les défaites militaires brisent le moral des peuples allemands, surtout ce peuple allemand, vous l'avez souligné, qui est matraqué par les bombardements jour et nuit. C'est la raison pour laquelle il revient au centre du pouvoir pour tenir tout son monde en main et l'amener jusqu'à l'extrême limite de la résistance.
Alors j'ai raconté tout à l'heure, j'ai décrit ce bunker qu'a rendu célèbre le film dont je parlais tout à l'heure, La Chute. C'est un endroit beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait imaginer et plus efficace aussi, hein, qui est particulièrement bien équipé, disons.
C'est un bunker qui fait 250 mètres carrés, divisé en 20 pièces dont Hitler se réserve 3 d'entre elles, ce qui lui donne un espace quand même assez exigu de une vingtaine de mètres carrés. Il est à l'épreuve des bombes, c'est incontestable. Il y a 3 mètres de béton en haut, sur les côtés, il y a 2 mètres de terre. Donc il y a même un coup direct sur le bunker ne l'aurait pas entamé. Il est parfaitement camouflé et les alliés ne savent pas exactement où il est.
Oui, c'est quand même un paradoxe.
Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors on matraque le quartier gouvernemental, les Anglais bombardent la nuit, les Américains bombardent le jour, mais sans savoir où.
Churchill, à la même époque, enfin juste avant, était dans un bunker lui aussi, sous Whitehall, donc tout le monde s'était enterré.
Et Staline l'a également
été. Staline a passé
quelques nuits dans un bunker et dans une station de métro à Moscou.
Alors, il y a cette avancée, cette espèce de course contre la montre entre les alliés, les anglo-américains d'un côté et les russes de l'autre, bien entendu. Il semblerait que la population allemande craigne davantage l'invasion des Russes, bien sûr.
Et avec raison. L'arrivée des Soviétiques au début de 1945 dans les provinces orientales de l'Allemagne va se traduire par une série de crimes de guerre qui sont parmi les plus terribles du XXe siècle. Sans atteindre ceux qu'ont commis les Allemands contre les Soviétiques de 1941 à 1944, il faut quand même souligner que cette irruption des Soviétiques a provoqué environ 400 000 morts et déportés, que près de 2 millions de femmes, d'après certaines estimations, ont été violées, plus de 100 000 assassinées à l'issue du viol, des viols qui sont souvent collectifs et qui ont littéralement traumatisé la conscience nationale allemande, empêchant toute
réconciliation. Presque jusqu'à nos jours, on peut dire.
Oh, je pense qu'aujourd'hui encore, cette cicatrice. Si on veut comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui à l'est de l'Europe, il faut comprendre la peur intense que les Russes inspirent aux Allemands encore aujourd'hui, à mon avis.
Oui, voilà.
Ça n'est pas effacé.
Et ce qui n'a pas été effacé non plus, c'est le souvenir de ces épouvantables bombardements, bien entendu. Un livre a été publié il y a quelques années, le livre de Jörg Friedrich, qui s'appelait Das Brandt ou Der Brandt, je ne connais plus le cas, le genre en allemand. Der Brandt, c'est-à-dire l'incendie, tout simplement, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans l'Allemagne actuelle et qui montre à quel point les Allemands en veulent quand même aux alliés de ces bombardements.
C'est vrai, ces bombardements ils ont, ce sont surtout les Anglais qui ont porté cette idée que les bombardements de terreur contre les populations civiles allaient briser le moral. C'est une vieille idée qui remonte aux années 20. En réalité, ça n'a pas marché. Le moral des Allemands n'a pas été brisé, sauf à la toute extrême fin, mais ça ne compte plus. En réalité, ceux qui avaient raison dans les bombardements, c'était les Américains qui, eux, voulaient cibler les complexes industriels,
oui, voilà.
Et notamment toute la pétrochimie.
Sauf qu'ils bombardaient de tellement haut que ça éclaboussait beaucoup autour. Hein.
C'est qu'en réalité, les moyens, à l'époque, il n'y a pas de frappe chirurgicale, comme on dit aujourd'hui, même s'il faut prendre le mot avec des pincettes. Les bombardements, quand vous voulez détruire une usine, vous détruisez les quartiers qui sont autour avec.
Et la population civile de Berlin, comment est-ce qu'elle a subi ?
Alors, cette population civile, curieusement, a moins souffert que les villes de l'ouest de l'Allemagne. Berlin est une immense métropole, la plus grande d'Europe, avec 4,5 millions d'habitants en 1939. La moitié ont été évacués avant les grands bombardements, notamment les enfants ont été évacués. C'est une ville qui, parce qu'elle est relativement à l'est de l'Europe, n'a pas subi les destructions massives que vont enregistrer les villes de la Ruhr, par exemple. Néanmoins, environ le quart de la ville est détruit. C'est évidemment une grande souffrance pour la population qui est régulièrement privée d'eau, d'électricité, de gaz et qui va compter entre 15 et 20 000 victimes.
Nous avons parlé tout à l'heure du dernier carré des fidèles autour de Hitler. Où sont tous les autres ? Où sont tous ces dignitaires du Troisième Reich qui, quelques mois encore auparavant, paradaient ?
Alors, tous sont réunis une dernière fois autour d'Hitler le 20 avril pour son 56e anniversaire. Ils viennent,
ça, c'est à la chancellerie, hein, c'est à l'air libre.
Ils viennent faire allégeance une nouvelle fois au Führer, donc pour son 56e anniversaire. Et puis, à partir de là, évidemment, ça va être chacun pour soi. Göring va partir dans les Alpes bavaroises. Himmler va se réfugier au nord, auprès de ses troupes. Speer va revenir une fois, le ministre de l'économie et de l'armement, va revenir une dernière fois le 22, puis lui aussi va disparaître. Bref, autour d'Hitler, réellement, ne reste que Martin Bormann, son fidèle secrétaire, et Goebbels, le ministre de la propagande, qui lui sert un peu de partenaire de discussion toutes les nuits, ainsi que les deux grands chefs de la Wehrmacht, que sont Jodl et Keitel, et le chef de l'armée de terre, Krebs, le dernier chef.
Tous ceux qui ont tourné le dos, si je puis dire, à Hitler, auraient-ils pu négocier avec les alliés ? Auraient-ils pu entreprendre quelque chose avec les troupes d'invasion de l'Allemagne ?
Non. Non, c'est exclu. Ils l'ont tenté. Himmler, notamment, l'a tenté de façon pitoyable en monnayant la survie des déportés,
terrible.
750 000 déportés qui lui restent sous la main, dont environ un tiers de juifs. Il a essayé de, en passant par certaines organisations juives internationales, il a tenté de monnayer la survie de ces hommes contre une ouverture politique via les Suédois. Ça a toujours été un échec pitoyable. Personne ne veut discuter avec eux.
Ce dont on a parlé, en revanche, ce sont tous ces scientifiques mobilisés par les industries d'armement allemandes et qui vont gentiment passer, les uns chez les soviétiques, les autres chez les Américains.
Alors effectivement,
récupération des cerveaux, on a appelé
ça. Oui, il y a eu une grande chasse aux cerveaux qui a été lancée, mais pas seulement. Hein, c'est également une chasse aux armes et aux brevets. Mm-hmm. Les brevets ont également été une cible de choix. Les alliés ont également démonté pas mal de choses. Le plus célèbre de ces Allemands, de ces scientifiques allemands, c'est évidemment le père des fusées V2, Werner von Braun, qui sera le fondateur de la NASA lorsque les Américains l'auront ramené chez eux.
Et l'un des pères de la bombe atomique américaine.
Alors, le père de la bombe atomique américaine, c'est plutôt Robert Oppenheimer,
oui, mais
ceux-là ne doivent pas grand-chose à la recherche allemande qui, elle, s'est fourvoyée de son côté. Donc la bombe atomique, c'est un effort américain avec des savants venus de l'Europe entière, mais avant la guerre.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le fait qu'Hitler se soit suicidé, que son cadavre n'ait pas été officiellement et clairement retrouvé, puisque vous dites que ça s'est fait dans des conditions d'une opacité totale, comme toujours avec les soviétiques du reste, est-ce que tout ça a empêché les alliés de profiter d'un grand symbole d'une certaine manière ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu assister à la mort d'Hitler ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus fort d'une certaine manière ?
Il aurait fallu bien évidemment le juger.
Mais voilà.
Imaginons qu'Hitler ait eu le destin de Saddam Hussein, c'est-à-dire qu'il décide de ne pas rester dans sa capitale et de fuir la nuit de ferme en ferme. Il le dit d'ailleurs à Goebbels, je ne veux pas finir fuyant la nuit de ferme en ferme. Mais on imagine, effectivement, il aurait pu passer au tribunal, mais on imagine à aucun moment, c'est pas possible, Hitler a toujours refusé cette solution, et il est évident que cet homme qui a toujours été hanté par le suicide allait finir par se suicider.
Ce qui est tout à fait étonnant, c'est la quantité de témoignages qu'on a pu conserver de cette époque, y compris de personnes de l'intérieur, hein, de l'intimité même.
Il y en a une quantité effectivement importante, environ entre 30 et 40, y compris des gens qui ne l'ont vu que quelques minutes. Il faut dire que dans les années 50, 60 et 70, ça se monnayait assez cher, soit auprès des journalistes, soit auprès des
commissions. Dans les magazines d'histoire que je collectionne, moi je peux vous dire qu'il y a beaucoup de ces témoignages.
Oui, et puis tous ont fait des best-sellers en racontant les dernières heures d'Hitler.
Les 100 derniers jours d'Hitler, chronique de l'Apocalypse, c'est le très bel album de Jean Lopez qui est publié chez Perrin. Merci beaucoup.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez Franck Ferrand à la question de Jean-Michel via la page Facebook de l'émission. Il vous demande pourquoi parle-t-on de Troisième Reich pour parler de l'époque hitlérienne ?
Alors d'abord, que veut dire le mot Reich ? C'est pas tout à fait, on a toujours traduit par empire en allemand. Mais ça veut pas dire tout à fait empire, ce serait plutôt Kaiserreich le terme d'empire. C'est le Reich de l'empereur, si vous voulez. En réalité, ce terme fait plutôt référence à un territoire sur lequel s'exerce un pouvoir, mais pas à un régime en particulier. Le tout premier Reich, c'est ce que nous appelons le Saint-Empire romain germanique qui a été créé à la fin du Xe siècle, en 962, et qui va durer extrêmement longtemps, qui va durer pas très loin de 1000 ans, puisqu'il ne s'arrêtera qu'en 1806, au moment de la création de la Confédération du Rhin par Napoléon Ier. Alors ce Saint-Empire romain, il regroupait, vous le savez, l'Allemagne, la Suisse, une partie de l'actuelle Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Autriche, de l'actuelle République tchèque, etc. Même toute une partie de la France, qui n'avait pas la même physionomie qu'aujourd'hui, et même de l'Italie. C'est la famille Habsbourg qui va régner le plus longtemps sur cet empire millénaire. Et je vous le disais, à l'issue de la défaite d'Austerlitz en 1805 et du traité de Presbourg qui lui fera suite, c'est Napoléon qui donc met fin à ce premier Reich. Il y a ensuite une renaissance du Reich allemand, un deuxième Reich qui naît le 18 janvier 1871 dans la galerie des glaces du château de Versailles, lorsqu'est proclamé donc l'Empire allemand. L'Allemagne vient de gagner la guerre de 1870. En 1871, elle s'est rendue totalement maître de la France. Elle a récupéré l'Alsace-Lorraine et le premier ministre du roi de Prusse, qui est évidemment le célèbre Bismarck, va en profiter pour réunir tous les pays de germaniques, disons, et créer cette espèce d'empire fédéral dont le premier empereur sera donc Guillaume Ier, mais dont l'empereur le plus célèbre et celui qui sera le dernier empereur, disons, de ce deuxième Reich, c'est bien sûr Guillaume II, le Kaiser Guillaume II. Et puis donc, Hitler va avoir l'idée de faire renaître le Reich une troisième fois. Dans Mein Kampf, il parle d'un État germanique de la nation allemande, empire pan-germanique qui regrouperait, entre autres, l'Autriche, la Hongrie, l'Alsace et la Lorraine, la Bohême-Moravie, une partie de la Pologne. Alors, entre-temps, entre le Deuxième Reich et le Troisième, il y a la République de Weimar. Le but d'Hitler, en appelant ça le Reich, c'est de faire oublier, justement, la notion de République et de régime parlementaire. On est là, dans ce Troisième Reich qui correspond directement à l'époque nationale-socialiste, à l'époque nazie.